Bienvenue au podcast Sortie de secours présenté par Suicide Action Montréal. Mon nom est Joannie Duquette et ici, ce sera un endroit où on va vous présenter des discussions sans tabou, sans jugement sur le sujet du suicide et surtout où on va poser les vraies questions. Le suicide, il faut en parler puis on est là pour ça. Si vous êtes inquiet pour un proche, vous avez perdu quelqu'un ou si vous-même vous avez besoin de soutien, n'hésitez pas, composez le 1-866-APPEL et surtout, ne restez pas seul dans la détresse. Aujourd'hui, nous allons parler avec Martin d'une période de détresse qu'il a vécue il y a quelques années. Bon épisode! Aujourd'hui, à l'épisode, notre invité est Martin Binette. Il est conférencier, coach, consultant, activiste en santé mentale et fondateur du podcast et du blog Entre deux oreilles. Puis on va jaser avec lui de la période de détresse qu'il a vécue il y a quelques années. Martin, bienvenue.
Merci, Joannie, j'apprécie.
Merci beaucoup d'être là, d'oser parler de ton expérience, de ce qui t'est arrivé. Là, Martin, on commence en 2004. C'est là que c'est arrivé pour toi, cette période de détresse-là. Dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé pour toi, Martin?
2004, je peux te dire fin novembre, je vais pas bien du tout. Je vais pas bien. Puis moi, il faut comprendre, en fait, on va même reculer encore plus loin. Il faut aller jusqu'en 1994. Donc, 10 ans avant, c'est là que j'ai fait ma première dépression et j'ai fait ma première crise de panique. Moi, j'étais un petit garçon qui était anxieux, mais fonctionnel. J'ai pas eu de troubles de comportement. J'avais des bonnes notes. Je faisais plein de sport, mais j'étais un petit gars bien anxieux. Mm-hmm. Fait qu'en 94, j'ai 19 ans, je fais ma première crise de panique. Une dépression vraiment majeure où j'arrête mes études, j'arrête mon travail. La vie suspendue complètement. Et ça a laissé des séquelles parce que ça a été ma première rencontre avec la maladie mentale. Fait que quand je fais mes conférences, justement, j'explique aux gens que moi, je vis avec la maladie mentale, je pense, depuis ma naissance, mais officiellement, c'est depuis 1994, depuis l'âge de 19 ans. Ce qui est arrivé avec cet événement de 1994, c'est que ça a laissé des traces et ça a causé une espèce de remous où est-ce que continuellement, comme par vague, j'avais des périodes plus difficiles. Okay. Donc, qui venaient souvent de façon saisonnière, pendant à l'arrivée de l'automne, où est-ce que je me sentais un petit peu plus déprimé. Et l'été, bien, j'avais mille et un projets.
C'était plus facile, entre guillemets.
Ah oui, absolument. Okay. Et on ne m'a jamais diagnostiqué avec de la bipolarité, parce qu'on semble, tu sais, je donne un exemple de haut et de bas. Sauf que moi, j'ai vraiment une fluctuation d'humeur. Donc, j'ai un trouble de l'humeur et un trouble d'anxiété généralisée. Et pendant ces années-là, de 94 à 2004, bien, ça fluctue. Et je reviens à 2004. En 2004, je vis des choses difficiles. Je vis une rupture très difficile et je crache. Vraiment, je crache. Et ça fait plusieurs années, je peux dire au moins 3-4 ans, où est-ce que c'est très difficile. Et là, j'arrive à un point où est-ce que je suis papa. Je suis un papa d'un petit garçon de 3 ans. Je suis séparé. Je suis père monoparental, papa de fin de semaine, mais j'arrive pas à fonctionner. C'est-à-dire que je suis une larve. Mm-hmm. Ce qui est curieux, c'est que je réussis quand même à travailler, mais il y a un terme hein, qui est très populaire en parlant de présentéisme ces temps-ci. Et en 2014, on ne disait pas présentéisme, mais c'est ce que je faisais. Je me présentais au travail, mais je faisais le minimum. Je rentrais du bureau.
Tu punchais.
Puis après, exactement. Puis après ça, quand je revenais à la maison, je dormais tout de suite. Donc, je dormais constamment. Même pendant les pauses, je trouvais des endroits pour aller me coucher. J'étais vraiment en phase dépressive. Et là, les idées noires ont commencé à arriver dans ma tête. Parce que j'arrivais pas à fonctionner. Puis là, ça fait 10 ans là, que je vis avec ça. Puis moi, je cherchais toujours la guérison. Puis je voulais sortir de la maladie mentale. J'étais suivi par un médecin. Je prenais une médication, mais j'avais arrêté ma médication en 2004 et tout ça. Et là, j'arrive justement avec une rupture, une période difficile professionnelle. Vraiment, tout va mal. Et là, je suis chez moi. Et là, je commence à avoir des idées noires. Et les idées noires sont arrivées comme des espèces d'une petite voix dans ma tête là, qui disait « Ben, tu sers à rien, toi. À quoi tu sers? T'es rendu à 29 ans, tu t'as rien fait, t'as un petit travail que t'aimes pas, t'as pas réalisé tes rêves. » Et là, la roue commence à tourner. Et là, c'est le blâme, Puis ajouter avec ça, puis je blâme pas mon petit garçon que j'adore, Renaud, mais il était chez moi la fin de semaine, puis j'arrivais même pas à aller jouer au parc avec lui au ballon parce que 5 minutes, puis j'étais épuisé. Puis je disais, je disais à Renaud, viens, on va rentrer à la maison parce que papa est fatigué, il faut qu'elle se repose. Et là, Renaud, à un moment donné, il a dit, papa, moi, je préfère quand je suis avec maman. Puis il a raison, parce que je suis plate, j'ai pas d'énergie, puis je me fâche à rien, puis je suis pas le fun. Et là, cette phrase-là m'est rentrée dedans, et ça vient ajouter à tout ce schéma mental négatif qui dit, regarde, tu sers à rien, puis tu sais quoi, si t'étais parti, je pense que les gens s'en rendraient même pas compte. T'sais, honnêtement, à job, il te remplacerait. La maman de ton garçon, elle s'occupe super bien de ton garçon. Elle va refaire sa vie, puis il va avoir un autre papa. Une espèce de schéma de pensée négatif où est-ce que tu te rends compte que finalement, bof, si je partais, qui est-ce qui s'en rendrait compte?
J'imagine que quand c'est enclenché, là, c'est parti. La roue doit tourner constamment.
C'est comme du goudron. Du goudron qui commence à s'emparer de ton cerveau. Puis là, tu ne raisonnes plus. Et souvent, on va dire on perd la raison. C'est un peu ça. Je ne raisonnais plus. Tout ce que je disais était et tout ce que je pensais était négatif. Mm-hmm. Alors, à tous les soirs, je rentrais du travail. Et là, je me versais un verre d'alcool, puis deux, puis trois. Puis là, tout ça, ça faisait comme une espèce de cocktail corrosif qui faisait qu'à un moment donné, j'ai dit tu sais-tu quoi? Ciao bye. Je vais arrêter ça. On arrête ça. Puis ce que je voulais faire, et dans ma planification, c'est que je me suis dit, je vais prendre une soirée où est-ce que j'ai justement pas mon garçon, que je sais que, je vais être libre, je ne serai pas dérangé, ça va être dans mon appartement. Donc, j'ai commencé à planifier, petit par petit, comment j'allais passer à l'acte. Donc, est arrivé ce vendredi soir du mois de novembre 2004. Et là, je suis à la maison, puis je sais que c'est la soirée. Et là, je commence à prendre un peu plus d'alcool.
Toi, c'est clair dans ta tête.
Ah, c'est fait.
C'est sûr.
Ah, c'est fait.
T'as plus aucun doute à ce moment-là?
Non, non. Je suis effrayé, par contre. Je suis pas en paix, là. Je suis effrayé. Mais dans ma tête, c'est la chose à faire. Parce que je vaux rien. Tous les rêves que j'ai voulu réaliser se concrétise pas, je vais avoir 30 ans, puis à l'époque, j'ai l'impression que 30 ans, c'est vieux, là, tu sais, que c'est la fin de mes jours, parce que l'impression qu'on a dans la vingtaine, c'est qu'il faut que tu ailles tout réaliser.
Oui.
Tu sais, j'avais même pas terminé mon bac, je travaillais pour une compagnie d'assurance, vraiment, là, je considérais ma vie plate, pas de défi, je tournais en rond, célibataire, père de fin de semaine, toutes des échecs, j'étais un échec. Fait que dans ma tête, je me dis, OK, tu sais-tu quoi, je suis résolu, ciao, bye. Je suis effrayé, mais je suis résolu. Alors, j'avais tout planifié mes choses. Et là, je suis chez moi, sur mon futon. Je n'avais même pas de lit, j'avais un futon. Puis là, j'étais en train de gribouiller, tu sais, un peu, qu'est-ce que je vais raconter à mes proches? Qu'est-ce que je vais écrire?
Okay, tu avais l'idée de faire une lettre.
Oui, okay. Ouais. Et là, ce qui est arrivé, c'est que mon cellulaire a sonné. On était en 2004, là. Les cellulaires, à l'époque, ça commençait à être populaire. C'était un flip phone que j'avais.
Ouais.
Et moi, je voulais rien savoir des cellulaires. C'est pour moi, c'était pas... Mais suite à ma rupture, ma maman, que j'adore, elle dit, « Mon garçon, j'aimerais ça être capable de te rejoindre. Je venais de déménager dans un nouvel appartement qui n'avait pas de meubles parce que je m'étais séparé. » Vraiment, là, ma mère, elle s'est dit, « Tu vas t'acheter un cellulaire. » Puis mon ami dit, « Tu vas t'acheter un cellulaire. » Fait que j'avais deux numéros dans mon cellulaire, puis je ne l'utilisais pas, puis il était à côté. Alors, quand je pensais à cette soirée-là qui allait être la dernière de ma vie, mon cellulaire s'est mis à sonner. Et je ne l'avais jamais pratiquement entendu sonner, à part quelques appels que j'avais reçus, mais je ne l'utilisais pas. Puis je ne sais pas pourquoi, Joanie, mais j'ai comme sans hésitation, j'ai répondu.
Okay.
Puis au bout du fil, il y a mon ami, il y a mon meilleur chum. Mon meilleur chum s'appelle Daniel, que je connais depuis l'âge de 5 ans. On est les best buddies, on a été coloc, on était à la même école, on a fait des sports ensemble, on a fait les 400 coups ensemble.
Il me connaît par cœur.
Il me connaît par cœur, puis lui, en plus, il sait ce que je vis. Mais moi, je n'ai pas dit là, que j'avais un plan de prévu parce que je faisais ça dans l'ombre. Là. Même lui, d'une certaine façon, je m'étais dit, il va se trouver d'autres chums, puis tu te fais un scénario où est-ce que ça va passer en dessous des cracks puis d'acide.
Tu n'avais pas exprimé à quiconque de ton entourage, ouais, non, ça ne va pas, ou...
Pas du tout. Okay. Les gens se rendaient compte que je passais un mauvais coton, par contre.
Mais pas à ce niveau-là.
Non, non. Okay. Tu sais, je leur disais, Ah, c'est une mauvaise passe, là. Okay. Ben, j'ai eu ma rupture, ça fait mal. Puis là, je suis dans un appartement tout seul. J'avais même passé une période de temps jusqu'à je vais retourner chez mon père à 29 ans. Donc, pour l'ego puis pour le mental, c'était très difficile. Alors, j'ai mon chum au bout du fil, Daniel, qui me... « Hey, le gros! » Et on se parle oui. comme ça. Hein. Il dit « Hey, le gros, qu'est-ce que tu fais de bon? As-tu des plans à soir? » Et là, je suis flabbergasté. Je fais comme... parce que dans ma tête, j'en ai des plans.
T'en as un plan, là.
J'en ai un plan, puis un gros, là. Mais là, je ne veux pas y dire. Là, je commence à bafouiller, puis il me connaît par cœur. Et oh!
C'est qui, hein?
Ça va-tu? Ouais, j'avais des plans, mais non, là, je sais pas trop quoi répondre. Et tout de suite, Daniel, il dit, « Hey, le gros, bouge pas, je m'en viens. » Lui, il pense pas que je suis en train de commettre l'irréparable. Il dit, « Sais-tu quoi? Vendredi soir, je m'en viens chez vous. »
J'arrive.
Puis ce qui était le fun, puis ce qui est vraiment extraordinaire dans cette histoire-là, c'est que mon ami, il reste à 10 minutes de marche, à 3-4 rues de chez nous. Fait que je sais que j'ai 10 minutes, Joanie. Là, dans ma tête, là, je me suis dit, parce qu'il a raccroché pratiquement, là, il a dit, « M'en viens, là! » OK. Là, je sais que mon ami s'en vient. Là, j'ai deux choix. Soit que je passe à l'acte suite, ou soit que je fais rien puis je l'attends.
Mm-hmm.
Puis là, je sais pas quoi faire. Puis là, je suis effrayé. Mais là, le temps passe, puis là, à un moment donné, ça sonne à la porte. Ding dong. Là, je dis, OK, ben là, puis là je ramasse les affaires. Puis là, tu sais, je rouvre la porte, puis je ne veux pas le faire rentrer dans la maison. T'sais. Fait que mon chum, il est là, il dit, hey, qu'est-ce que tu fais de bon? Viens-t'en, je t'amène avec moi, on va te sortir. Je restais dans le plateau Mont-Royal, puis pas loin de la rue Mont-Royal. Il dit, on va aller prendre une bière à notre petite bar, là, qu'on a l'habitude d'aller prendre une petite bière. Viens-t'en, va chercher ton coach, là, puis on va aller prendre une bière. Moi, dans ma tête, ça me tente pas, là.
Non, tu veux pas. Mais tu veux pas qu'il rentre non plus.
Exactement. Okay. Et là, mon chum, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'il me connaît. Il voit que je vais pas bien. Et le plus beau cadeau qu'il me fait, c'est qu'il a insisté. Parce que j'aurais pu dire, « Hey, sac-moi patience, asseoir, là, j'ai d'autres plans. » Puis j'aurais pu l'envoyer promener. Mais il y a quelque chose à l'intérieur que j'ai jamais réussi à percer, la raison, c'est que je l'ai suivi. Puis... je sais pas pourquoi aujourd'hui, c'était comme, souvent je l'appelle mon sauveur, là, mais il venait me chercher. Puis l'histoire s'arrête pas là, Joanie, parce qu'il m'amène dans un bar, on va prendre une petite bière, puis là on jase, mais on jase pas de ça. Il a eu aucune idée, lui, Daniel, puis je fais une parenthèse, il l'a su quelques années plus tard.
Okay,
j'ai raconté plus tard ce qui s'est passé. Fait que lui, il n'a aucune idée. Et là, il m'amène, on marche, je me rappelle, sur la rue, puis il me dit, le petit coquin, il dit, « Ouais, on s'en va au bar, où est-ce qu'on s'en va? On va avoir une fille que je connais, viens-t'en avec moi, tu sais, être avec des amis. » Là, je fais comme, « Ah, oh, mon maudit, je suis un chaperon, là. Là, c'est sérieux, là, j'ai pas le temps, là, je suis pas en état de voir du monde, là. » Il dit, « Viens-t'en, on va avoir du fun, on va jaser, puis on va prendre du temps ensemble, puis... » On arrive au bar. Et on arrive au bar, puis bon, on prend une bière, là, je socialise un peu, puis ça me permet tranquillement, je reviens pas comme en état de fête, mais je me sens mieux,
okay.
Je me sens entouré, je me sens éloigné de cet appartement-là que j'ai toujours considéré comme un appartement maudit parce que le vibe était mauvais. Puis parmi les gens qu'il y avait, les amis que je te parlais, ben, il y avait une fille. Et cette fille-là, je la connaissais, donc je la connaissais un peu parce que je l'avais déjà croisée professionnellement dans le passé, puis on se met à jaser, puis on se met, comment ça va, puis ça fait peut-être 3-4 ans qu'on s'était vu. Et là, on commence à jaser, et ce qui est extraordinaire, Joanie, c'est que cette personne-là, donc mon ami m'a amené dans un bar pour me changer les idées, je me suis mis à parler à une fille, bien, cette femme-là, c'est ma conjointe aujourd'hui. C'est la mère de ma fille.
Oh.
Donc, de ma fille Simone, qui a 11 ans aujourd'hui. Donc, l'histoire, pour moi, elle est tragique, mais elle est également parce que j'allais passer à l'acte. Oui. Donc, c'est quand même lourd. Mais en même temps, c'est extraordinaire parce que mon ami, il m'a sauvé la vie. Puis, il m'a permis de recommencer un nouveau chapitre qui fait en sorte aujourd'hui, bien, je suis heureux puis je suis encore vivant. Il faut comprendre, Joanie, que c'est sûr que j'ai rencontré ma conjointe, mais c'est pas du jour au lendemain
non,
que tout de suite les idées noires sont parties.
C'est ça, j'imagine que c'est un cheminement parce que là, on s'entend, toi, cette soirée-là, tu es retourné chez vous, tu es retourné dans cet appartement-là qui est maudit, là, comme tu dis. Là, toi, tu reviens-tu à tes deux choix initiaux de « OK, fait que là, je suis revenu chez nous, est-ce que je poursuis ou je continue? » Qu'est-ce que tu as décidé? Qu'est-ce que tu as décidé de faire? Je sais, mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là dans ta tête?
J'ai pas dormi la nuit. Puis deuxièmement, j'avais beaucoup moins d'idées. L'idée, le plan, s'effondrait tranquillement. Okay. Parce que là, c'est comme si... C'est ça la beauté de la chose, c'est que j'avais eu la preuve que je valais quelque chose aux yeux d'une personne. Mon ami n'a pas juste pris son chum, viens, on va aller prendre une bière. Il m'a dit, d'une certaine façon, il ne me l'a pas dit explicitement, mais tacitement, c'est que tu vaux la peine, viens-t'en, j'ai besoin de toi, puis tu as besoin de moi. Et ça, pour moi, ça a été le plus beau cadeau. Et là, je me suis dit, écoute, c'est curieux, puis... Quand je pensais à France, qui est ma conjointe, que je venais de rencontrer, ça me donnait un petit kick. Puis j'étais comme, ça vaut peut-être la peine d'explorer ça. Puis, mais l'autre, à un moment donné, la vague revenait, parce que tu sais bien, excuse mon langage, elle va te domper là quelques mois parce que t'es malade mental. Puis là, c'est vrai. Fait que c'est pas une coupure qui s'est faite. Tu dois refaire confiance d'une certaine façon à la vie. Puis le lendemain matin, j'ai décidé, tu sais-tu quoi, on met le plan sur la glace. J'ai pas dit c'est fini,
okay.
Là. On met le plan sur la glace, c'est un wait and see. On va voir ce qui va se passer.
Fait que cette option-là restait pour toi encore envisageable.
Oh, oui. Parce que ça fait 10 ans que je souffre, là. Puis même, je peux remonter à plus tard à ma jeunesse, parce que j'ai eu des périodes plus difficiles dans ma jeunesse, mais je t'ai parlé de ma première crise panique, ma première dépression. Mais là, ça fait 10 ans là, que je souffre régulièrement, puis que je fais des rechutes. Fait que là, je dis, OK, je vais donner, d'une certaine façon, une chance à la vie, mais disons que... pour ne pas utiliser un mauvais jeu de mots, la corde là, est courte. Là.
Mm-hmm.
Parce que je n'ai pas envie de m'étendre trop longtemps sur le sujet. On verra ce que ça va donner, cette histoire potentielle, parce que ça ne va peut-être pas se matérialiser. T'sais, je l'ai rencontré dans un bar un soir. Est-ce que ça va se matérialiser? Puis est-ce que les problèmes vont persister? Est-ce que les idées noires vont rester? Alors, c'était vraiment une évaluation, puis on va voir ce qui va arriver dans les prochaines semaines, les prochains mois.
Puis à ce moment-là, est-ce que tu étais plus laid-back? Tu es comme, non, regarde, on va attendre de voir ce qui se passe, ou tu t'es comme pris en main? T'as-tu repris ta médication tout de suite? T'as-tu donné des outils pour...
Ça a été graduel. Ouais. C'est sûr et certain que dans cet événement-là, cette journée-là a été un gros wake-up call. Je me suis dit, OK, si je n'ai pas passé à l'acte, donc je me donne une autre chance, ça veut dire qu'il faut que je mette les chances de mon côté. Fait que, à quelque part, il faut justement que je reparle à mon médecin. Il faut que je reprenne ma médication. Donc, effectivement, j'ai repris ma médication. J'ai dit, j'ai été revoir ma psychologue. J'ai décidé de travailler sur cette situation-là pour voir, peut-être qu'il y a encore une chance que je suis capable d'en guérir. Parce que c'est ça, Joanie, que je cherchais en 2004, c'était la guérison. Alors, j'ai redonné tranquillement un peu une chance à moi-même, à ma vie. Et tranquillement, ce qui est extraordinaire, puis ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que France, qui est arrivée dans ma vie, ça a commencé à être plus sérieux. Puis je me sentais très bien avec elle. Je me sentais en sécurité tellement que j'avais décidé, d'une certaine façon, d'aller moins souvent à mon appart maudit. Je passais plus de temps parce que je me sentais... C'est comme si ça avait déclenché un peu des hormones qui avaient été un peu bloquées pendant quelques années. Puis tranquillement, c'est comme si le flux recommençait, je recommençais un peu plus à sourire, je me sentais un petit peu mieux. Puis une autre chose qui est importante, c'est que j'ai pas niaisé, puis j'en ai parlé de qui je suis. Parce que ma relation précédente, malheureusement, la maladie mentale avait contribué à la rupture.
Je comprends.
Alors moi, j'avais énormément peur, mais je m'étais dit, curieusement, j'avais deux choix. Soit j'y en parle pas, ou soit que j'y en parle, puis all-in. Parce que moi, mon plan est là, fait que j'ai mon plan B. Et là, ce qui est extraordinaire, puis ma conjointe, elle est extraordinaire là-dedans, puis elle l'a encore aujourd'hui, c'est qu'elle me dit d'une façon assez directe, « So what? » C'est-à-dire, moi, je te prends comme que t'es. Et elle me le dit encore aujourd'hui, puis là, je ne veux pas venir émotif, mais c'est ça. Ma conjointe m'a toujours, toujours accepté comme je suis. Mm-hmm. Puis j'ai eu d'autres tempêtes par la suite, pas jusqu'à 2004, mais j'ai eu d'autres périodes difficiles. Et je te dirais que ça, ça m'a beaucoup aidé, de savoir que je pouvais lui en parler, puis que je n'avais pas l'impression que que cette relation-là était sur le point d'une rupture immédiate à cause que je vivais des moments difficiles.
Sans alors, jugement, elle te jugeait pas, elle t'écoutait.
Non, puis ma conjointe avait vécu une période difficile dans sa vie. Elle était familière avec la maladie mentale. Mm-hmm. Fait que pour elle, elle dit, moi, là, ça fait partie de toi. Tu sais, le gars qui fait des jokes plates, puis le gars qui écoute du sport, puis le gars qui me fait rire, puis le gars qui est aussi parfois triste, anxieux, ben c'est le package que je prends, puis mm-hmm. c'est celui que je veux. Et moi, ça m'a fait un grand bien. On a parlé de médicaments. Moi, c'est mon plus gros médicament que j'ai jamais pris. Alors ça m'a vraiment, vraiment... Ça a changé la donne. Parce qu'en début, justement, 2005, la relation s'est consolidée. Puis là, je me sentais mieux. Jumelé au traitement, mm-hmm. jumelé au suivi, jumelé à toutes ces choses-là. Ben je me suis dit, bon, est-ce que ça vaut la peine de mettre fin à ça. Et là, le plan s'effaçait.
Oui, c'est ça.
S'éloignait.
Est-ce qu'il s'est effacé ou il y a un matin, tu t'es levé et tu t'es dit, ah, non, il n'est plus là le plan.
Oh non.
Non?
Non, jamais.
Jamais?
En fait, je vais être honnête avec toi. Ça m'a tellement traumatisé, ça. C'est un traumatisme de penser à cet acte-là qu'encore aujourd'hui, j'y pense. Pas à commettre l'acte. C'est que j'ai été jusqu'à là, pour moi, c'est un traumatisme. Je me dis, mon Dieu, il fallait que je sois vraiment, vraiment bas. Un moi qui aime la vie, puis tu le vois, un gars qui aime jaser.
Ben oui.
Puis tu sais, je fais plein de conférences, je parle de santé mentale. J'ai deux beaux enfants, puis je me dis, ah, il fallait vraiment que je sois vraiment bas pour ça. Mais je ne l'ai pas vu partir au loin. Ou c'est pas un matin où je me suis dit, ah, il n'est plus là.
Okay.
C'est vraiment quelque chose qui est resté en arrière-plan. Parce qu'oublie pas, là, c'est bien beau tout ça, mais il me manquait une pièce à mon puzzle, c'était la guérison de la maladie mentale. Mais ça m'a pris encore 10 ans, Joanie, jusqu'en 2014, le 11 août 2014, avant que la dernière pièce du puzzle se matérialise.
Ouais.
Et ça s'est passé le jour où est-ce que Robin Williams s'est enlevé la vie. Le 11 août 2014. J'étais encore, c'est ce que j'appelle ma troisième tempête. C'est drôle, hein, tu vas dire, ben, t'as de la misère avec les quatre. 94, 2004,
ouais,
2014.
Oui, 2014, il y a une suite.
Il y a comme un pattern. Ouais. En 2014, je fais ma troisième grosse dépression. Je suis en arrêt de travail. Pendant mon arrêt de travail, Robin Williams s'enlève la vie. Et là, moi, ça me remémore 2004.
Oui.
Je suis en dépression. Je dis pas que je dis, OK, ben là, je veux passer à l'acte, c'est pas ça, mais ce que je me rends compte, c'est qu'il y a quelque chose, Martin, là. Ça fait 20 ans là, que tu vis avec la maladie mentale, avec l'anxiété, avec la dépression. Il est peut-être temps de creuser un peu plus, puis de trouver cette dernière pièce du puzzle. Mm-hmm. Et Joanie, la dernière pièce du puzzle, je l'ai trouvée, puis c'est l'acceptation. Et ça m'a pris 20 ans. C'est l'acceptation que je vis avec cette maladie-là. Elle fait partie de moi, elle ne me définit pas, mais elle fait partie de moi. Moi, dans mon cas, à moi personnel, je n'en guérirai jamais.
Mm-hmm.
Mon médecin psychiatre me l'a dit, Martin, comme un diabétique, comme quelqu'un qui a une maladie qui est permanente, tu vas vivre comme ça
mm-hmm.
toute ta vie. Donc, tu vas prendre une médication, tu vas voir un psychologue, tu vas faire en sorte que tu vas aller mieux, mais c'est toi qui dois, d'une certaine façon, vivre et composer avec cette maladie-là. Alors, le jour du suicide de Robin Williams, je décide de faire ce que j'appelle mon coming out, puis je décide d'en parler, parce que je n'avais jamais parlé, autre à ma conjointe et à ma femme. Ma conjointe et ma femme.
Oui.
Ma conjointe et ma mère. Il
oui.
n'y a personne qui connaissait mon histoire, puis mon chum.
Donc, c'est lourd à porter. C'est gros comme information là, de garder ça pendant tout ce temps-là en plus.
Oui. Et moi, j'ai toujours été... C'est pour ça que Robin Williams, son décès m'a marqué parce que le premier réflexe que j'ai eu, c'est j'ai fait « Oh mon Dieu, c'est moi ». Pas Robin Williams, je ne suis pas aussi drôle que lui, puis c'est un grand acteur, mais c'est parce que Robin Williams, quand on pense à lui avant qu'il s'enlève la vie, on pensait, il personnifiait le bonheur.
Oui,
grand sourire, tu voyais ses films, il faisait rire, il était drôle. Puis là, tu es comme un homme aussi heureux, aussi resplendissant, aussi joyeux peut aller jusqu'à s'enlever la vie. Et moi, je me suis dit la même chose parce que toute ma vie, Joanie, j'ai fait mon Robin Williams. Mm-hmm. C'est que quand je suis en présence des gens, souvent les gens, tu pourrais parler à des collègues de travail qui disent « Ah, Martin, c'est le gars de party, c'est le gars qui fait des jokes pour alléger l'atmosphère. Il est toujours là pour les autres. Mm-hmm. » J'ai porté un costume, ce que j'appelle le costume du clown triste.
Le clown triste, c'est ça, c'est exactement
pendant 20
ça.
Ans de ma vie. Parce que je ne voulais pas que les gens disent à lui c'est un malade mental puis que je me fasse étiqueter. Fait que j'en parlais jamais. Jusqu'au moment où ce que j'ai dit, de parler d'Aline tantôt, j'ai dit je suis tanné. Je suis tanné, puis j'ai décidé de dire ben, je vais en parler ouvertement, puis on verra. Ça a été l'acte probablement le plus épeurant que j'ai fait de ma vie parce que j'étais sûr que j'allais perdre tous mes amis, j'allais perdre ma job, puis c'est tout le contraire qui s'est produit. Mais c'est exactement comme ça que je me suis senti pendant 20 ans. Je jouais un rôle.
Un personnage.
Un personnage.
J'imagine que maintenant, tu sembles bien aller, 2021. Là, est-ce qu'il y a des fois où c'est plus difficile? Ouais. Tu te lèves un matin, puis est-ce que c'est plus facile pour toi de le reconnaître? Tu sais, comme, oh là, je vais entrer dans une période peut-être un peu plus sombre.
Oui. Avec l'acceptation est venue aussi la réalisation qu'il fallait que je vais appeler ça, gère aussi cette maladie-là. Donc, c'est-à-dire que si on m'avait diagnostiqué le diabète, bien, j'ai dit, bon, OK, bien, les biscuits, il va falloir que je les arrête.
Ouais.
Fait qu'il a fallu que je prenne des décisions. Il a fallu que je change des choses. Parce que avant 2014, évidemment, c'était la médication, le suivi avec le médecin. Donc, c'était l'extérieur qui guidait. T'sais, j'attendais qu'à un moment donné, la pilule fasse effet puis que je sois guéri. Puis après ça, j'arrête ma médication. D'ailleurs, en 2014, j'avais arrêté ma médication parce que j'ai dit, ça y est, je suis guéri.
Okay.
C'est ça qui m'avait fait que j'avais rechuté. Alors, il a fallu que j'accepte que je prenne cette médication-là pour le reste de mes jours. Il a fallu que j'accepte que je sois capable de reconnaître mes symptômes, que je garde un journal puis que je change mes habitudes de vie. Parler d'alcool tantôt, ben, c'est de dire, ben, tu sais quoi, il va falloir que tu arrêtes. Puis j'ai arrêté pendant plusieurs années. Aujourd'hui, je bois socialement une bière de temps en temps, mais pas au même niveau qu'à cette époque-là. La caféine, parce que je suis un anxieux de nature. Je prenais du café à peu près à hauteur de 3-4 par jour. Ben là, j'en prends plus ou je prends un décaféiné. Je me suis adonné à la méditation. J'ai pas tout fait ça du jour au lendemain, mais tranquillement, j'ai bâti mon coffre à outils qui fait qu'aujourd'hui, Joanie, j'aime bien dire que je suis comme un ninja. C'est que je suis capable d'avoir les yeux là, qui sont capables de voir les symptômes là, chez moi. De dire,
les
okay,
plus petits détails, tu es capable de les spotter. Là.
Moi, là, je dis aux gens, là, il m'arrive encore de faire des crises de panique. Mais contrairement à avant, quand j'allais dans le plus profond de la crise de panique, moi, les premiers symptômes, je les reconnais tout de suite. J'ai comme un fourmillement qui part, là, puis hop, puis là, les yeux se rétrécissent. Ça, c'est premier, quand on dit se rétrécissent, c'est la vision qui se rétrécit. J'ai tout de suite mes outils. Pouf! Je me mets en mode solution, puis j'ai mes outils. Et là, maintenant, je ne me dirige pas vers la crise de panique où est-ce que je suis en petite boule dans le coin, comme je le faisais, comme j'avais des centaines de crises de panique par semaine. C'était effroyable. Alors, je reconnais les moments où est-ce que c'est plus difficile. Là, on rentre dans une phase qui s'appelle la phase descendante pour moi, au niveau de l'humeur. Là, tu vois, les journées raccourcissent. L'entrevue se passe évidemment au mois de septembre, à l'automne.
Oui.
Donc, l'automne, pour moi, c'est ma période la plus difficile. Parce qu'on était dans un pic au mois de juillet. Il y a eu des grosses périodes de chaleur cet été. Il faisait chaud. Mm-hmm. Le soleil est là. Pour moi, c'est un stimulant. Donc, je viens un peu hyperactif. Ben, pas un peu, je viens hyperactif l'été. Et là, tout d'un coup, pouf, il fait plus froid, ça redescend, moins de lumière, les journées sont plus courtes. Là, je sens que l'humeur est plus sensible. Donc, la dépression, je ne dis pas que je suis dépressif à chaque année, mais je sens que je suis plus enclin à avoir une humeur dépressive. Alors, à ce moment-là, il faut que j'inverse le pattern. Quand je dis inverse le pattern, c'est qu'au lieu de freiner la machine l'été, il faut que je l'accélère un peu l'automne et l'hiver. Donc, j'ai une médication pour ça. J'ai des traitements alternatifs aussi pour ça. Alors, je suis maintenant un ninja. Je suis capable de pouvoir gérer, parce que c'est vraiment une gestion au quotidien. Puis, il y a des journées qui vont être bien, puis il y a des journées qui vont vraiment aller moins. Puis, il va dire, ben, sais-tu quoi? Ben, on recommence demain, Martin. La journée aujourd'hui a mal été, puis tu sais quoi? Tu n'étais plus sensible aujourd'hui. On recommence demain, puis on ajuste certaines petites choses, puis on regarde toujours, il y a encore demain, puis encore demain. Ce qui n'était pas mon mindset en 94, puis mon mindset, surtout pas en 2004.
Mais c'est fou à quel point que on peut dire que de ce moment-là, de ton parcours, dans le fond, tu t'en sers pour éduquer les gens aussi, parce que comme tu donnes des conférences, comme tu es coach aussi, ça a vraiment changé ta vie, c'est sûr et certain. Est-ce que tu peux dire que là, maintenant, ce ne sera plus jamais une option? Pour toi, là, c'est fini. Là. Tu te rendras plus à ce niveau-là?
Je serais très surpris de me rendre à ce niveau-là. Mais tu sais, je ne sais pas ce que l'avenir réserve. Tu sais, je te disais tantôt que ça m'a effrayé d'avoir été si bas. Je souhaite ne pas me rendre là, mais j'ai les outils pour ne pas me rendre là maintenant. C'est ça ma confiance, que ça n'arrivera pas. Puis ce qui me rassure, c'est qu'on vient de vivre et on vit encore une période très difficile. Mm-hmm. Et tu sais, en mars 2020, pour moi, là, j'étais, puis j'ai même pas aucune gêne de le dire, j'étais dans un line-up le 13 mars 2020 à acheter 48 rouleaux de papier toilette parce que j'étais en crise de panique, parce que c'était la fin du monde. Mm-hmm. Moi, je suis un anxieux. Tu sais, je suis un hypochondriaque, je suis un anxieux, donc j'étais complètement déconnecté. Puis une chance que ma conjointe est là pour justement me ramener sur terre parce qu'elle est hyper calme, mais j'ai acheté pour 300$ de NyQuil puis de tous des trucs en prévision de l'apocalypse. Mm-hmm. Fait que je ne sais pas ce que l'avenir peut me réserver, mais ce que je sais, c'est que cet événement-là, si c'était arrivé en 2014, ça aurait été cataclysmique dans ma vie.
Clairement.
Là, aujourd'hui, ce que je suis fier, c'est que j'ai... Elle ne semble pas encore terminée, la maudite pandémie, mais elle va se terminer un jour. C'est que j'étais capable, malgré cette journée-là, parce que ça a été une journée de panique, puis le lendemain matin, je me suis repris en main, j'ai pris mes outils.
Plus rationnel.
Puis j'ai vu énormément de gens dans mon entourage professionnel et ainsi de suite qui ont malheureusement sombré. Moi, je m'en suis sorti très bien. Je me suis parti une business, j'ai déménagé, je me suis acheté une maison, j'ai fait des décisions qui, pour un anxieux, c'est vraiment des décisions. J'ai pris des décisions vraiment, des sauts dans le vide, et je m'en suis bien sorti parce que j'avais les outils pour m'en sortir. Fait que pour répondre à ta question, on ne sait pas ce que l'avenir réserve, mais je suis très confiant que avec l'expérience, avec la sagesse de mes 46 ans et mon vécu, je sais maintenant que même si tu vas au plus profond puis que tu penses qu'il n'y a pas de lumière, là, ben, il y en a encore. Mm-hmm. C'est juste que tu ne la vois pas, mais il y en a encore de la lumière. Fait que ça, pour moi, c'est important.
Puis en terminant, Martin, à part là, se trouver une France là, dans notre vie, là, parce qu'elle semble être fabuleuse et extraordinaire, si quelqu'un nous écoute, puis justement, il est dans le fond du puits, puis il ne voit pas la lumière, là, si tu avais un conseil à donner à cette personne-là qui nous écoute, ce serait quoi pour lui donner, parce que mis à part ton histoire qui est fabuleuse, lui donner là, l'espoir qu'il faut pour continuer?
Bien, tu l'as dit, hein, l'espoir. L'espoir, là, c'est souvent la première chose qui s'efface dans notre tête quand ça va mal. Quand j'étais au plus profond de mon puits en 2004, on me parlait d'espoir, ou on aurait pu me parler d'espoir, puis j'aurais dit « j'en vois pas ». Pour moi, la vie est terminée. Mais sauf qu'il y en a toujours de l'espoir. C'est juste que notre cerveau, qui est englué dans ce goudron-là, est plus capable de rationaliser ou de raisonner, de dire « ben oui, il y en a encore ». Ça prend... C'est très dur de se convaincre soi-même. C'est ça qui est vraiment pernicieux de la maladie mentale. C'est quand tu es dans le fond, tu ne peux pas dire, si tu permets une petite anecdote, Joanie, en 94, quand j'ai fait ma première dépression, un moment donné, mon père, il m'a dit que j'adore mon père, c'est mon idole, puis il me dit, là, mon gars, c'est un baby boomer, mon père, c'est pas le plus grand communicateur, mais je l'adore. T'as beau essayer de te donner tous les coups de pied dans le cul du monde, c'est pas ça qui va faire en sorte que tu vas sortir du marasme. T'as besoin qu'on te tende une perche. Mm-hmm. Fait que ce que tu me poses comme question, qu'est-ce que tu dirais avec quelqu'un qui vit des moments difficiles, c'est de s'accrocher le plus possible, d'aller chercher de l'aide. Moi, ce que je n'ai pas fait, c'est que je pensais qu'il n'y en avait pas. Mm-hmm. Aujourd'hui, je sais qu'il y en a. Puis elle est sous forme d'un Daniel. Daniel, il ne faut pas l'oublier dans cette histoire-là. Je me suis accroché à lui comme une bouée. Là.
Il a changé ta vie
au complet. Il a changé complètement ma vie, puis je lui en serai toujours redevable. Mm-hmm. C'est d'aller chercher de l'aide. Il y a Suicide Action Montréal, il y en a des organismes. Présentez-vous à l'urgence. Mm-hmm. Il y en a des solutions. Mais il y a aussi une autre chose, c'est que c'est à tous les Daniels qui nous écoutent. Mm-hmm. Daniel, il y a une chose qu'il faut lui donner, là. Outre le fait qu'il avait besoin de son body pour un double date. Là.
C'est ça, à la base. Là.
À la base. Il a quand même, et il me l'a dit des années plus tard, il me l'a dit, je savais que tu n'allais pas bien, Martin. Il a été vigilant. Mm-hmm. Et ça, l'entourage joue tellement un rôle primordial. Il a vu un changement dans le ton de ma voix. Il me connaissait par cœur, tu l'as dit. Il a vu un changement dans le ton de ma voix. Il a vu un changement dans mon attitude. Il a fait ça. Un, il a été vigilant, il a été bienveillant, puis il a été dans l'action. C'est qu'il a dit, il a tout arrêté ses affaires, puis il a dit, je m'en viens.
J'arrive là, là.
J'arrive drette là. Et ça, pour moi, c'est probablement ce qui m'a... C'est ce qui m'a sauvé la vie. Parce que Daniel aurait pu dire, là, ah non, vendredi soir, j'ai envie de faire le party. Mm. Lui, il n'est pas blood, il n'est pas drôle. Tu sais...
Je vais y aller tout seul voir les filles.
Puis... C'est ça. T'sais, je vous la rappellerai demain. Mmh. Il aurait pu abandonner. Mais c'est son amour pour son chum puis sa bienveillance qui a dit, tu sais quoi, je vais y aller. Puis je vais l'amener. Mmh. Fait que c'est pas juste... C'est ce que j'appelle bidirectionnel, en fait. C'est bilatéral, en fait. C'est, oui, la personne qui souffre, il faut qu'elle, elle, d'une certaine façon, aille chercher de l'aide, lève la main, en parle. On le dit tous à ça. Mais moi, là, l'écoute, la bienveillance, la vigilance de l'entourage mm-hmm. est tellement important. Combien de fois qu'on entend des gens qui disent « on ne l'a jamais vu venir ». Je doute pas que les signes, parfois, sont difficiles à voir. Mmh. Mais parfois, là, moi, ça est arrivé à quelqu'un, je lui ai dit, « As-tu des idées suicidaires? Oui. T'as-tu un plan? » Et j'ai vu dans la réaction qu'il y a eu une hésitation. Pour moi, dans ma tête, c'est qu'il y a une c'est clair.
Il y a un plan.
Alors, bientôt, on va faire quelque chose. Et ça, c'est d'être vigilant. On n'a pas besoin d'être psychologue, on a juste besoin d'être à l'affût puis d'être vigilant. Alors, c'est très important pour moi, et je dis ça en tant que Martin Binette, je ne suis pas psychologue, mais c'est quelqu'un qui a vécu une histoire comme la mienne, c'est que je n'étais pas en position à l'époque d'aller chercher de l'aide pour diverses raisons. Je n'étais pas mentalement prêt à aller chercher de l'aide. J'étais convaincu par toute cette noirceur dans ma tête que la meilleure décision, c'était de mettre fin à ma vie. Alors, c'est important pour les autres de dire, OK, ben on va prendre des nouvelles. Puis c'est exactement ce que mon chum a fait parce qu'il savait que je passais une mauvaise période, puis il a pris le téléphone, puis ce coup de téléphone-là a changé ma vie.
Martin, c'était vraiment intéressant. Merci d'avoir partagé ton histoire et je suis convaincue que ça va avoir aidé plein de gens qui nous ont écoutés aujourd'hui. À Daniel et à France, tous les merci du monde. Pour vrai, continue de faire ce beau cheminement-là, ce beau travail-là pour la prévention du suicide. C'est vraiment, vraiment, vraiment très cool. Merci.
Mais merci beaucoup, Joannie, pour l'invitation. Ça a été vraiment un plaisir.
Merci beaucoup d'avoir été là avec nous pour cet épisode et merci à notre invité pour cette belle conversation. On vous le rappelle, si ça va pas, n'hésitez pas, vous composez le 1-866-APPEL. À la prochaine!